15 février 2011, mardi enneigé, on pense à sortir nos raquettes. Pour le moment, on est confortable pour converser autour du travail de Joanne Etu et Jean de Rome, deux pionniers de la musique actuelle au Québec, défenseurs d'une pensée musicale libre, ludique, de collaboration et d'exploration spontanée. Bonjour Joanne, bonjour Jean.
Bonjour. Bonjour.
J'aimerais, dans un premier temps, que vous me parliez de votre travail dans le contexte du duo « Nous perçons les oreilles ». Quand est-ce que ça a officiellement commencé, le duo comme tel? Et ensuite, de quelle manière la musique se développe et prend forme dans le contexte du duo?
Ça a commencé ici même, dans la cuisine, où est-ce que nous sommes en ce moment. Notre fille était plus jeune, et puis on improvisait à la fin de la journée, on s'installait, puis on improvisait ensemble pour... parce que la vie, quand ton enfant est jeune, c'est plus difficile d'avoir des opportunités. Je me concentrais plus sur la maison de disque, puis on a commencé comme ça, à avoir le goût d'improviser les deux ensemble dans notre quotidien. Puis c'est une façon qui était facile, dans le sens qu'on n'avait pas besoin de loin local, de regarder les agendas, de céduler. On le faisait spontanément à la fin du repas. Puis sans savoir, sans décider d'avance, sans inscrire ça à l'agenda, on s'installait. Jean sortait sa petite boîte d'appo, puis on se mettait à jouer. Ça, c'était vraiment le début.
Donc ça, c'était vraiment en improvisation libre. Joanne et moi, on joue presque la même chose, là, à part la fameuse petite boîte de peau. En fait, on joue les deux, le saxophone alto. Et puis dans ce cadre-là, on faisait aussi beaucoup de voix. Tranquillement, à partir d'improvisation libre, mais tranquillement, et d'ailleurs notre premier disque était uniquement des improvisations libres. Déjà, ça avait commencé parce que j'avais enregistré Joanne. On avait fait un truc en duo comme bang sonore pour un projet de musique de film. Puis j'avais gardé ces bandes-là. Puis il y a une partie de ça qui a servi pour le premier disque. Puis on a complété avec d'autres choses.
Mais je pense que ça, c'est un moment charnière quand même. Tu travailles chez toi, dans ta quotidienneté, dans une convivialité très franche, on peut dire. Puis là, tu vas en studio, puis là, tu as le recul, puis tu entends ce que... Et puis, je pense que pour les deux, ça a été comme une révélation. On a comme fait « Wow! Il y a quelque chose là, tu sais. » Il y avait une proposition musicale, il y avait un langage qui se dessinait. Parce que, tu sais, c'est quand même intuitif un peu tout ce travail-là. Et puis, c'est là qu'on a comme fait... Et on va faire un disque, puis on est un duo maintenant, puis on a comme commencé, on s'est trouvé un nom.
À partir de là, on s'est mis à faire des chansons aussi, donc à chanter plus de textes qui souvent étaient écrits, mais des textes assez courts ou des mélodies assez courtes, qui nous servaient, soit qui étaient construits en alternant des sections improvisées, des sections préparées, souvent en les amenant d'une manière tout à fait spontanée, c'est-à-dire qu'on est en impro et à un moment donné peut arriver un texte ou une chanson. Et puis, on a gardé pendant longtemps cette approche-là où on avait un cahier et qui contenait toutes les pièces du répertoire du groupe, et on utilisait seulement un lutrin qui était entre les deux. Puis chacun pouvait, pendant une impro, feuilleter le cahier, puis aller proposer la prochaine pièce. Et donc, comme l'autre, les deux improvisateurs ont les yeux fermés, normalement, la plupart du temps. En rouvrant les yeux, tu voyais qu'il y avait une nouvelle pièce qui était proposée, puis qui devenait la cible, le point de direction de l'impro. Puis là, donc, l'impro tranquillement s'en allait vers ça, puis la pièce apparaissait, puis repartait. Donc, ça devenait un parcours spontané. On a fait donc un disque, le deuxième qui s'appelle « La vie, c'est simple », qui était basé à partir de textes et chansons des deux. Puis ensuite, on est revenu à une approche plus improvisée. Probablement qu'on va faire comme ça... A, B, comme ça. Le prochain, on s'est promis qu'il y aurait peut-être plus.
Qu'est-ce qui vous a influencé ou inspiré dans les débuts de votre travail en improvisation?
Très jeune, à 15-16 ans, j'aimais le jazz. Fait que j'avais déjà cette idée-là d'improvisation qui m'intéressait. J'étais déjà comme fervente. Puis quand je suis devenue musicienne, je jouais dans un band de rock, mais on laissait de l'improvisation, on laissait des plages. Puis c'est tranquillement que ça a toujours été de plus en plus présent dans ma vie. Puis à un moment donné, mais c'est devenu tellement fort que le band de rock, c'était plus possible de tenir ça parce que...
C'est trop... la structure est trop fixe.
Oui, trop fixe. Puis ça m'ennuyait de toujours faire le même concert, puis toujours la même forme, tout ça. Puis c'est devenu... moi, je dirais que c'est vraiment l'école du jazz qui m'a amenée à ça. Malgré qu'à ça, c'est ajouté, en 79, je connaissais Fred Frith, tu sais, c'est ajouté cette école-là de Rock in Opposition, Chris Cutler, tout ce courant-là, déjà qui...
Le début du indie aussi, les belles indépendants, ça commençait avec Chris Cutler, c'est un exemple important.
Oui, c'est vrai, effectivement. Puis là, il est arrivé Victo en 83. Puis là, c'était comme, oui, c'est ça, là. Ça me parlait, c'était vraiment ça. Mais je dirais pas que c'est une personne, tu sais, c'est comme...
Un cheminement.
Oui, mais j'imagine que ce qui nous a influencé, c'est tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu. On est de la génération des gens qui ont... qui écoutaient des disques, qui ont écouté des milliers de choses... Le jazz, certainement, mais aussi tout ce qu'on pouvait trouver, les musiques du monde. C'était pas offert, ça, aux gens...
De l'autre génération.
Nous, c'était comme ça nous frappait en pleine gueule. On avait le free jazz, la musique du monde, la musique contemporaine. C'était tout ça qui dans une même journée, pouvait nous déstabiliser, nous inspirer, tout ça. Alors, on n'avait pas du tout une approche... linéaire de qu'est-ce qu'on pouvait faire. Tout devenait possible avec les problèmes de pureté que ça peut poser ou de d'identité. Mais en même temps, c'est ça, on est bombardé d'informations. Et puis ça a certainement eu une grande influence. Après ça, des écoles d'improvisateurs, entre autres, très très fortes, comme certaines villes européennes, comme Amsterdam, Londres, les États-Unis aussi. Puis, au niveau local, toute une série de gens qui... des hommes sœurs là, qu'on a trouvés, qu'on a rencontrés, qui évoluent dans le même sens. Au départ, des gens comme... pour moi, des trucs comme l'atelier de musique expérimentale avec Raymond Gervais, Yves Boulian, Robert Marcel Lepage, ça avait beaucoup d'impact. La série du musée des Beaux-Arts qui présentait des improvisateurs en solo dans les années 80, où est-ce que j'ai vu pour la première fois des gens comme Evan Parker ou des gens comme ça. La série des concerts même organisés entre autres par Patrick Darby qui avait fait venir pour la première fois Steve Lacy en 76. Pour moi, ça, c'était des moments très, très, très forts, très inspirants. Puis le jazz, parce que c'était plus possible de voir du jazz international de haut calibre là, dans les années 85, pris dans les filets du festival de jazz. Donc, des salles comme In Concert... puis avant ça, Esquire, Showbar, des endroits comme ça. Aussi d'autres groupes précurseurs comme Quatuor du Jazz Libre du Québec, avec un groupe comme Nibu, j'avais pas 20 ans, puis je jouais dans le Vieux-Montréal, à la salle qui s'appelait L'Amorce, qui était dirigée par le Quatuor du Jazz Libre. C'était quand même très impressionnant là, de voir ces musiciens-là, puis leur vie aussi.
Ça, c'est un autre chapitre, j'en suis sûre.